Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être à l'écoute de Beurre FM. C'est Voix au chapitre. Le plaisir d'accueillir ce dimanche Georges Morin. Bonjour.
Bonjour.
Georges Morin, vous êtes président de l'association Coup de Soleil. Vous êtes fondateur de ce qui s'appelait le Maghreb des livres pendant de longues années. Vous allez nous présenter la 25e édition de ce rendez-vous littéraire du Maghreb des livres qui est étendu depuis 2 ans au Maghreb Orient des livres, autrement dit le modèle. Vous êtes infatigable, Georges Morin. Vous avez toujours œuvré pour que le Maghreb, dans sa dimension culturelle, plurielle, soit à l'honneur, soit au travers de la littérature. C'est ce rendez-vous que vous nous donnez chaque année pour ce modèle intitulé donc depuis 2 ans Maghreb Orient des livres, qui aura lieu à l'Hôtel de Ville de Paris du 8 au 10 février prochain. L'entrée est libre et tout au long de notre rendez-vous de ce dimanche, vous allez nous présenter ce programme que vous avez bien ouvert sous les yeux, que vous connaissez, j'en suis sûr, par cœur. Des auteurs en dédicace, près de 140, des rencontres, des débats, des lectures, autant de rendez-vous qui vont jalonner cette 25e édition qui se tiendra donc à Paris. Ça fait 25 ans déjà, c'est des milliers de visiteurs, des centaines d'auteurs et des tonnes de livres. Je l'ai dit, vous êtes infatigable, Georges Morin.
Oui, alhamdoulilah, comme on dirait en suédois. C'est vrai que, d'abord, si vous me permettez une petite rectification, il ne faut pas parler du Maghreb des livres au passé. Hein, on avait dit ce qui s'appelait le Maghreb des livres. Il y a toujours le Maghreb des livres. Donc ça, c'est très important. Il faut le dire à vos auditeurs. Ce que nous avons construit l'année dernière avec l'IREMO, c'est une fédération de 2 salons, le Maghreb des livres, qui continue sa route et qui fête donc cette 25e édition cette année, et puis l'Orient des livres qui va fêter sa 2e édition. Donc ce sont 2 salons qui se sont mis ensemble sous ce drapeau fédérateur, cette bannière fédératrice de Maghreb Orient des livres. Mais à l'intérieur du Maghreb Orient des livres, il y a le Maghreb des livres qui poursuit sa route et l'Orient des livres qui vient de la débuter. Donc, on se conforte, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous parce que ça nous a apporté du sang neuf. C'est vrai qu'au bout de 25
ans. C'est une richesse aussi.
Voilà, absolument. C'est un...
Puis la singularité du Maghreb des livres sont effectivement, vous y reviendrez sur ce programme et ses auteurs, c'est effectivement la particularité traitée dans ce modèle, dans ce rendez-vous autour de questions spécifiques au Maghreb, dans les rencontres, dans les tables rondes, voilà. Et puis d'autres questions spécifiques au Moyen-Orient.
Et en même temps, on n'est pas seulement...
Il y a des choses en commun.
Absolument, on n'est pas... Tout à fait. On n'est pas seulement côte à côte, on fait aussi des choses ensemble.
Des choses ensemble, bien sûr.
Par exemple, c'est vrai que l'année dernière, quand on a décidé de faire ensemble une table ronde sur l'Empire ottoman, bien entendu, nous étions... Moi, je suis né à Constantine, qui est une ville turque, une ville ottomane. Et c'est vrai que pour moi, la Turquie n'est pas étrangère, comme la Palestine n'est étrangère à aucun maghrébin. Voilà, donc on avait déjà depuis longtemps jeté l'ancre en Orient, parce que l'Orient, c'est quand même la terre de nos d'où viennent les 3 religions du livre, d'où est venue l'écriture, d'où vient l'agriculture. C'est vraiment un foyer de civilisation extraordinaire, d'où sont issues les civilisations aussi bien européennes qu'arabes ou berbères, etc. Donc toutes nos cultures, elles ont d'une façon ou d'une autre des racines en Orient. Quand on vous parlait aux Tunisiens, c'est évident, ils savent tous que les créateurs de Carthage sont venus des côtes libanaises et palestiniennes. Donc voilà, chaque Maghrébin a aussi quelque part un ancrage en Orient, et donc c'est pour la raison pour laquelle on n'a pas hésité à le faire, avec simplement là aussi encore une fois, donc d'une part chacun garde son identité et poursuit sa route. Il n'y a pas de fusion, il n'y a pas de... Voilà, c'est simplement un travail en commun et c'était extrêmement important et bénéfique pour tout le monde. Et puis, il y a aussi deux facteurs majeurs qui nous différencient de l'Orient. C'est d'abord cette langue qui est très présente dans tout le Maghreb et surtout, bien entendu, au Maroc, 45%. Et en Algérie, près de 35% de berbérophones. Donc ça, c'est une spécificité qui n'existe pas en Orient. Donc ça fait aussi une identité particulière pour le Maghreb. Et puis surtout pour nous aussi, comme on le dit toujours, depuis 30 ans à Coup de Soleil, on s'intéresse au Maghreb de là-bas, hein, de la rive sud, mais aussi au Maghreb d'en France. Il y a une diaspora maghrébine au sens le plus large du terme, en intégrant tous les gens qui ont un lien de vie ou d'amitié avec le Maghreb, en France, qui est extrêmement importante et qui n'a rien à voir avec une petite diaspora orientale.
Ça fait
deux facteurs qui nous identifient très particulièrement et qui fait que justement, il n'y a pas de confusion à avoir entre les deux. Voilà.
Vous vous souvenez de la première édition du Maghreb des livres ?
Et comment ?
C'était hier, il y a 25 ans.
C'était hier, ouais. On se souvient toujours comme une première fois. Hein. C'était en 1994, donc avec un parrain qui était un parrain prestigieux, qui était un de mes meilleurs amis, qui est Allah yarhamou, que Dieu ait le garde en paix, Rachid Mimouni, qui m'avait dit, bon, voilà, coup de soleil, vous faites des rencontres littéraires une fois par mois ou une fois tous les 15 jours quand on avait le temps et l'énergie. C'est dommage parce qu'il y a il sentait, lui, puisqu'il est, il venait d'Algérie, il s'était exilé au Maroc quelques mois plus tôt, en décembre 1993, avec sa famille. Donc, il avait, en raison des menaces qui pesaient sur ses enfants, de la part des islamistes, donc il connaissait bien la France, l'Algérie, il commençait à connaître le Maroc. Il me dit, tu sais, il y a une émergence de l'écriture en Algérie, au Maroc et en France, dans la communauté maghrébine qui était chère. Donc, tu devrais organiser un événement annuel qui permette de mettre tout cela en lumière. Et c'est comme ça que c'est lui. Mais je dis, mais écoute-moi, tu es bien gentil, Rachid, mais moi, je suis prof, je suis pas ordinateur de salon, je ne sais pas faire. Mais si, on va t'aider. Et notamment, est-ce que tu as pensé à... Est-ce qu'on pourrait aller voir le CNL ? Le CNL, c'est quoi ?
Le Centre National du Livre.
Pardon, Monsieur le Président, voilà. Le Centre National du Livre, que je ne connaissais pas du tout. Et j'avais sûrement entendu ce sigle, mais ça me branchait pas particulièrement. Et donc, c'est Rachid qui m'a amené. Rachid, donc écrivain algérien résident au Maroc, qui m'a amené au Centre National du Livre à Paris. Ils nous ont fait un excellent accueil, évidemment parce que j'avais un ambassadeur extraordinaire, mais aussi la formule les intéresse, c'est comment mettre en lumière toutes ces littératures. Et l'idée venait de Rachid en disant, voilà, une émergence qui a lieu aussi bien au nord qu'au sud. Voilà. Donc ils nous ont fait un excellent accueil et on a fait notre première édition du Maghreb des livres, je me rappellerai toujours, c'était un samedi, c'était en octobre, parce qu'on faisait ça dans le cadre de Lire en fête, voilà, c'est ce qui avait été instauré par Jack Lang. Et donc, ils nous ont hébergés pendant 4 heures, on est à 21h aujourd'hui, 4 heures donc, de Maghreb des livres. Et le signe du destin, le jour de le samedi à 14h, quand on a ouvert le premier Maghreb des livres, Rachid arrive, évidemment c'était l'invité d'honneur pour cause, et il arrive avec un monsieur bras dessous, et il me dit, est-ce que vous connaissez ? Non, on ne se connaît pas. Et il me présente donc... Mohamed Choukri, le grand écrivain marocain, qu'il avait croisé dans le métro, et il lui a dit, bon, qu'est-ce que tu as rien à faire, ben viens, on va faire Maghreb, qu'est-ce que c'est que le Maghreb, viens avec moi, tu verras. Donc voilà, on a eu la chance d'avoir deux grands écrivains des plus grands pays du Maghreb, l'Algérie et le Maroc, et ça a été donc, je pense, un signe qui nous a sûrement menés jusqu'à aujourd'hui, et bien au-delà, j'espère.
Deux auteurs, on arrive à 140 pour cette nouvelle édition.
145 maintenant.
145, ouais. C'est dire l'importance et le chemin parcouru dans l'organisation de ce Maghreb des livres 25 ans et depuis deux ans, cette nouvelle édition qui accompagne aussi, ou enfin qui est avec le Maghreb des livres, le Maghreb Orient des livres pour la deuxième édition. Je le rappelle, ça va se passer à l'Hôtel de Ville de Paris du 8 au 10 février prochain. Je l'ai dit en introduction, vous nous proposez donc tous ces auteurs présents en dédicace, mais aussi des tables rondes, des moments de réflexion. C'est important aussi, parce que durant ces 25 ans, vous vous êtes bien rendu compte que, et nous étions à Beurre FM évidemment fidèles au rendez-vous. Je rappelle aux auditeurs que nous avons un direct le samedi après-midi, donc dans ce Maghreb Orient des livres. Et on s'aperçoit bien chaque année que vous avez un intérêt tout particulier à essayer d'apporter une réflexion, des débats autour de ce qu'est le Maghreb aujourd'hui, donc dans les sociétés du Maghreb. Je vois qu'il y a plusieurs tables rondes autour des thématiques contemporaines du Maghreb. C'est important pour vous aussi, ça ?
Absolument. C'est vraiment dès le départ, là aussi, on avait travaillé avec ça avec Rachid Mimouni. C'est le fait que ce grand rassemblement annuel, c'est bien sûr autour c'est le premier pilier, c'est le livre et les auteurs. Et puis le deuxième pilier, c'est effectivement la réflexion et le débat. Alors, vous avez cité effectivement l'actualité du Maghreb, mais pas que, parce qu'on s'intéresse beaucoup à l'histoire aussi. L'histoire, c'est extrêmement important pour nous, hein, on le sait. Donc, il y a l'histoire, il y a l'actualité, il y a la société, il y a... Et puis, il y a toujours, hein, j'ai insisté au départ notre conversation, il y a toujours ce souci de parler des deux Maghrebs, le Maghreb de là-bas et le Maghreb d'en France. Hein, pour nous, c'est important parce que nous sommes une association française, nous sommes les 9 dixièmes de nos adhérents vivent en France. Donc c'est vrai que le Maghreb de France est pour nous tout aussi important. Hein. Et en même temps, il y a tellement c'est ça qui fait aussi la richesse et la spécificité.
Ces allers-retours entre la France et le Maghreb.
Voilà, les allers-retours des ponts. Il y a tellement de familles dont la moitié est en Maghreb, l'autre moitié en France. Enfin bref, il y a des ménages mixtes. Enfin, il y a des liens humains tellement forts entre les deux rives de la Méditerranée que voilà, pour nous, il y a vraiment deux Maghrebs, qui sont encore une fois complètement branchés l'un sur l'autre, Dieu merci. Le Maghreb de là-bas et le Maghreb d'en France. Voilà.
Et dans les tables rondes que vous allez nous proposer, on va essayer d'entrer dans ce programme riche. Justement, sur ces tables rondes, toutes les dires, ça va être un petit peu fastidieux, mais en tout cas, les temps forts qui vont être ceux du Maghreb d'ici et ceux du Maghreb là-bas, par exemple, découvrir au travers d'universitaires, de personnes complètement.
Il y a un premier classement qu'on peut faire, si vous voulez, dans nos débats, c'est que. Au départ, nous avions des tables rondes qui étaient, en plus, qui étaient plus ou moins fixées par nos bailleurs de fonds au niveau de l'État. On est financé par l'intégration, par la culture, par les affaires étrangères, notamment. C'est les trois ministères qui nous subventionnent le mieux. Donc, ça veut dire qu'on avait, des tables rondes qui étaient... Enfin, ils nous avaient demandé de les faire.
Certaines obligations de tenir des thématiques autour de...
Un contrat moral, si vous voulez, de parler de l'histoire. De parler de la littérature, bien entendu, de parler de l'actualité et de parler de l'intégration. Voilà, c'était les quatre thèmes principaux. Donc, ça veut dire que, d'une part, on sélectionnait des auteurs et des livres qui venaient dédicacer, présenter leurs bouquins, etc. Et d'autre part, on avait, nous-mêmes, dès le départ, dès le mois d'avril, quand on commençait à travailler sur le magasin des livres suivants, fixé des thèmes de réflexion, de débat... encore une fois, sur l'histoire, l'actualité, etc., des deux Maghrebs. Et il y a quelques années, le Centre national du livre nous avait demandé je me rappelle très bien la conversation avec le président du CNL, qui me disait, mais écoutez, vous avez vous avez eu la vertu d'attirer à vous de très grands auteurs, ou des jeunes pousses, enfin, c'est un peu là aussi, quand on parle des auteurs, c'est toujours aussi les locomotives, bien sûr, qui nous font l'honneur de venir chez nous, mais aussi, évidemment, des jeunes écrivains qu'on a envie de mettre sur pied. D'ailleurs, souvent, moi, je vais citer personne pour pas faire de jaloux, mais on est très fiers quand même que beaucoup de grands écrivains qui sont maintenant en tête d'affiche ont débuté, entre guillemets, si je puis dire, au Maghreb des livres, au moins sur la scène médiatique française. Donc ça, c'est une grande fierté pour nous. Et ça veut dire qu'on a eu raison de capter ces deux sources, à la fois des locomotives et des jeunes pousses. Mais ce que je veux dire, c'est que le CNL nous a dit, voilà, vous attirez des grands auteurs qui viennent au Maghreb des livres. C'est dommage qu'ils ne viennent que pour présenter leur bouquin et le dédicacer. Vous devriez les utiliser entre guillemets davantage, avec deux formules qui ont été, d'une part, les entretiens. Hein, on propose à une journaliste littéraire d'interroger en gros la moitié des auteurs qui viennent au Maghreb des livres. Et puis les cafés littéraires qui sont un peu comme les tables rondes, mais qui sont forgés non pas ex nihilo par notre propre réflexion, mais qui viennent des thématiques de la publications de l'année.
On va revenir dans un instant sur ces tables rondes, justement.
Voix au chapitre sur Beurre FM. Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
L'invité ce dimanche est Georges Morin. Il est président de l'association Coup de Soleil et fondateur avec son équipe de Coup de Soleil du Maghreb Orient des Livres. C'est la 25e édition. Ça va se dérouler à l'Hôtel de Ville de Paris du 8 au 10 février prochain. Je rappelle que l'entrée est libre. Le vendredi, l'ouverture est à 14h et le samedi et le dimanche, toute la journée, à partir de 11h. On reviendra sur des détails pratiques en fin d'émission. Juste avant cette pause, nous évoquions avec Georges Morin l'importance aussi, au-delà des rencontres avec les auteurs, de ces dédicaces, vous avez évoqué les cafés littéraires, il y a aussi les tables rondes qui sont fondatrices aussi dans ce modèle, dans ce Maghreb Orient des livres, autour des thématiques que vous avez évoquées. Vous nous donnez quelques tables rondes que vous pensez, non pas que certaines le soient moins, mais les plus importantes en tout cas dans votre programmation ?
Tout à fait. Là, et nous avons, et c'est à l'initiative de notre partenaire, l'IREMO, avec Jean-Paul Chagnolot à sa tête.
Nous l'Institut avons... de recherche et d'études Maghreb-Moyen-Orient.
Voilà, excusez-moi,
donc
l'Institut de recherche et d'études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient. Voilà. C'est l'association partenaire de Coup de Soleil.
Voilà, c'est pour, ça, qui est le pendant de Coup de Soleil
voilà,
pour
voilà, l'Orient. Exactement, c'est eux qui organisent l'Orient des livres. Donc Jean-Paul Chagnolot souhaitait qu'on fasse, et c'est une très bonne idée à laquelle on a adhéré tout de suite, des temps forts. Alors, les temps forts, d'ailleurs, qui marquent à la fois le démarrage, la fin de la manifestation et le milieu de la manifestation. Donc trois points, en fait il y en a quatre, même cinq peut-être. Bon, c'est la hausse, comme on dirait chez nous. Et donc, on démarre par un gros coup de canon qui est l'intervention, une conférence inaugurale de Régis Debray. Hein, pas rien. Régis Debray, dont je rappelle hein, quand même qu'il est un grand intellectuel français, qui a été un compagnon de Che Guevara, qui a été ensuite un conseiller de François Mitterrand, voilà, qui est quelqu'un qui marque son siècle quand même, par sa pensée, etc. Et donc, il va nous faire une très belle conférence, je le pense, on en a beaucoup discuté avec lui, sur la Méditerranée, l'Europe et la Méditerranée, une communauté de destin, point d'interrogation. Hein. Donc, ça veut dire que... Voilà, c'est pas, on connaît Régis Debray, c'est pas quelqu'un qui va dire tout est beau, tout est magnifique. Il a même plutôt un pessimisme optimiste, c'est-à-dire qu'il est toujours très très vigilant sur les dangers qui nous guettent et en même temps il garde toujours une étincelle d'espoir, c'est ce qui fait aussi souvent l'intérêt de son discours et de son analyse. Voilà, donc on va commencer par Régis Debray.
Ensuite, c'est le
vendredi à 14h30, absolument, de 14h à 15h, une belle conférence, à tout le moins. Ensuite, on va terminer sur une grande conférence, une grande table ronde, qui est commune au Maghreb et à l'Orient, qui s'appelle 1919-2019, 100 ans de diplomatie française en Méditerranée. 1919, on le sait, c'est les traités de Sèvres, hein, donc c'est le redécoupage de l'Empire ottoman. L'Empire autrichien, l'Empire ottoman, donc les grands empires qui précédaient la Première Guerre mondiale. Et donc le bouleversement complet de la Méditerranée, avec notamment le partage du Proche-Orient entre la France et la Grande-Bretagne, avec toutes les conséquences que l'on paye encore aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est un premier point. Donc c'est la dernière conférence qui va clore et elle va être... accompagné, là aussi c'est, on voit bien, très bien la vocation de nos associations et de Coup de Soleil en particulier, c'est qu'il y a à la fois le sérieux de la réflexion mais aussi la convivialité de la culture puisque nous allons la manifestation va être clôturée par l'intervention d'un groupe qui vient de Grande Kabylie, de Saïda Khelfi qui va
et Tbalan,
voilà,
musicien de Saïda Khelfi,
qui vont Ils sont cinq, ils vont sans estrade, sans rien du tout, ils vont parcourir la foule pour terminer la séance, enfin la manifestation le samedi le dimanche à 18h. Voilà, ça va être la clôture. Et puis au milieu, il y aura deux grandes conférences, deux grandes tables rondes, c'est-à-dire le samedi. Une, évidemment, que je privilégie, puisque c'est on va parler du 25e Maghreb des livres, donc ça s'intitule... 25 ans de persévérance et après, voilà, donc c'est on va tirer un bilan qui sera sûrement positif de cette belle aventure et puis surtout on va s'interroger sur comment est-ce qu'on peut concevoir le Maghreb des livres pendant l'avenir. Voilà, c'est tout bouge, donc il faut que ça bouge aussi. Et puis il y aura aussi une deuxième grande table ronde qui porte sur les migrations en Méditerranée, sujet ô combien d'actualité. Voilà, donc on aura en fait un temps fort au départ, Régis Debray. Deux temps forts en clôture, la diplomatie française en Méditerranée et puis le groupe de Saïd Khelfi. Et puis ensuite, on aura au milieu, donc le samedi, les deux tables rondes dont je viens de vous parler. Voilà.
Voilà, des tables rondes qui sont riches et qui sont aussi intéressantes pour le public, parce qu'on va s'arrêter sur le public de ce rendez-vous du modèle. En général, c'est... Il est attendu, hein, ce rendez-vous, vous le savez bien.
Ah oui, bien sûr. Oui.
On vient de toute la France.
Bien sûr, absolument. Hein,
de la
France et de...
La communication est importante.
Et du Canada, des Pays-Bas, et de la Suisse, et de la Belgique.
Voilà,
et du Maghreb,
donc, tous ceux qui sont de près ou de loin, en tout cas, pour le coup, de loin pour beaucoup, pour certains viennent à l'Hôtel de Ville pour ce modèle. Et justement, en parlant des auteurs tout à l'heure, en les évoquant, cette presque 150, il y en a qui viennent du Maghreb, justement.
Absolument, oui, bien sûr.
Donc, il y a tout ce travail que vous faites en amont. C'est vraiment un minutieux travail de recherche d'auteurs, d'éditeurs. On reviendra ensuite sur les éditeurs du Maghreb qui seront là aussi. Mais comment vous prospectez un peu toute cette programmation?
C'est très complexe. C'est quelque chose que nous avons mis en place de manière très, très pragmatique. D'abord, on est tenu par le nombre. On s'est fixé de ne pas dépasser les 150 parce que c'est ingérable. Et dans le temps et dans l'espace, on a 2 jours et demi, c'est ce qui est déjà formidable. Donc on peut pas. Puis c'est pas une usine. Il faut qu'on fasse une sélection. Donc la sélection, elle est très très complexe. On est là. J'hésite entre la. On a 2 métiers qu'on a appris. C'est la pharmacie. La pharmacie. On est là avec notre balance de pharmacien à peser les grammes de romans, d'essais, les kilogrammes de marocains, d'algériens. Bon bref, les romans, les essais, la BD. Bon.
Il faut équilibrer tout ça.
Ah, il faut équilibrer. Bon alors les femmes, les hommes, les algériens, les marocains, les tunisiens, les romanciers, les essayistes. Voilà les BDistes, le polar aussi. La jeunesse, bien sûr. Il y a tellement de genres de littérature et Dieu merci, on les accueille toutes. Donc il y a déjà cet équilibre. On sait qu'on a une marmite qui n'accueille que 150. Donc il faut qu'on fasse des choix. C'est souvent douloureux, c'est compliqué. Et ça nous vaut parfois des inimitiés tenaces. Et comment pas moi et pourquoi pas moi et pourquoi moi je suis pas et lui il y est. Bref, on en entend des vertes et des pas mûres. Mais bon, c'est la vie. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure aussi, on essaye de mixer. Les locomotives, entre guillemets, des auteurs bien très connus qui attirent du monde et qui sont évidemment les bienvenus au Maghreb des livres et qui nous font, encore une fois, c'est très, très flatteur pour nous. Et deuxièmement, c'est les jeunes pousses, c'est-à-dire on essaie de repérer. Alors comment on le fait? On le fait grâce à des journalistes de France, d'Algérie, du Maroc et de Tunisie. Et puis on essaye on fait confiance aux amis qui nous recommandent une journaliste d'El Watan, une éditrice du Maroc, un libraire de Tunis qui nous disent voilà, j'ai repéré tel jeune auteur qui vraiment m'a beaucoup plu. On fait confiance, on est obligé de le. On ne peut pas tout lire, c'est pas possible. Donc voilà. Donc on a des antennes en France, au Maroc, en Algérie, en Tunisie qui nous aident. Les ambassades de France nous aident avec le bureau du livre aussi. Voilà, on a une pluralité d'antennes qui nous permettent d'arriver à plus ou moins à faire des choix, mais des choix qui sont encore une fois très difficiles. Et notamment, par exemple, alors il est évident que je sais que une éditrice algérienne me dit toujours au téléphone, mais oui, mais pourquoi tu n'invites que aussi peu de maghrébins, enfin pas de maghrébins, mais pourquoi tu sélectionnes aussi peu de livres édités au Maghreb, alors qu'il y a une très belle édition au Maghreb et qu'on a mis un point d'honneur à ce que les livres édités au Maghreb soient présents au Maghreb des livres. C'est pas fréquent en France. Et je lui ai expliqué qu'on peut pas sacrifier les gens de France maghrébins ou gaulois pour le Maghreb d'en face, mais qu'on fait une place au Maghreb et on a une place en gros de 40 sur les 140, les 150 en gros 40 comment dirais-je 40 auteurs qui viennent, qui sont publiés au Maghreb, parce qu'on a souvent là aussi ça facilite pas la compréhension, on a souvent des auteurs qui vivent en France, qui sont édités au Maghreb, et des auteurs qui vivent au Maghreb, qui sont édités en France. Donc c'est compliqué. Bon, donc on parle des livres édités au Maghreb, et donc on a en gros, on invite 10 à 15 Marocains, 10 à 15 Algériens, et pour aller de l'Ouest à l'Est, et puis la moitié de Tunisiens. Voilà, donc on a en gros une quarantaine de d'auteurs qui sont édités au Maghreb. Et voilà qui. Alors c'est un pari volontaire. On veut que ces livres soient là. Et du coup, par exemple, quand je vous dis 40, ça veut dire qu'il y a 40 auteurs qui viennent, de livres édités au Maghreb, qui sont invités, donc qui vont présenter leurs livres, mais on sélectionne aussi le double de livres. Ben, si on a 15 Algériens, on va prendre 30 bouquins, les 15 des auteurs qui sont invités, et puis 15 autres dont l'auteur n'est pas invité, mais le livre sera là. Donc c'est une façon aussi de mettre en valeur l'édition. Parce que c'est vrai que
L'édition Maghreb, elle s'est développée.
Il y a d'excellents éditeurs. Enrichi, vraiment, c'est un vrai plaisir de le voir.
Vous alliez parler du coût, effectivement, que représente
Oui, alors le coup, c'est vrai que, alors déjà, vous savez qu'on a, le CNL nous oblige maintenant, et c'est une bonne chose, je pense, une bonne politique de rémunérer les auteurs qui interviennent. Donc ça a un coût. Alors évidemment, ils nous ont augmenté un peu leur subvention, mais on est loin d'atteindre les dépenses que nous nous engageons, mais nous les engageons avec plaisir. Mais aussi, de plus en plus d'auteurs demandent, et c'est normal, qu'on leur paye un billet d'avion, un billet de train, qu'on leur paye une ou deux nuits d'hôtel, voilà. Et c'est vrai que ça a un coût considérable, au moment même où, et j'en profite pour le dire publiquement une nouvelle fois, nous-mêmes, comme beaucoup d'associations, nous sommes terriblement fragilisés par, d'une part, vous l'avez dit tout à l'heure, quand nous en parlions des emplois aidés, notamment, qui est une véritable catastrophe pour les associations et pour les collectivités locales, mais aussi, on est pénalisés par les baisses ou les suppressions carrément de subventions. Donc il a fallu, moi j'ai passé la moitié de l'année à me battre pour au moins maintenir la tête hors de l'eau. Voilà, c'est un vrai drame parce que nous avons réussi à survivre, mais c'est pas évident, quoi. Voilà.
Vous avez, Georges Morin, dans ce programme, à la fois ces tables rondes, ces rencontres, ces lectures aussi. Il y a des extraits, il y a des lectures,
oui,
aussi. Ça aussi, c'est qui donne envie au public,
oui,
de découvrir un auteur,
absolument.
Hop, un extrait.
Voilà. Alors,
un
on
extrait
a là
lu.
Aussi. Voilà, au début, c'était l'une des suggestions du CNL avec les cafés littéraires, c'était de lecture. Mais alors, on a démarré avec des lectures d'auteurs présents. Mais ça a été une cacophonie terrible parce que beaucoup d'auteurs voulaient lire eux-mêmes leurs livres. Alors nous avions engagé trois comédiens, deux comédiens, un guitariste et un violoniste dans un moment de poésie assez extraordinaire au Magasin des Livres. Mais bon, ça posait des problèmes énormes parce que là aussi, pourquoi lui, pourquoi pas moi? Donc elles étaient rares, hein, les lectures, il y avait trois ou quatre. Bon, voilà, donc ça posait des problèmes de plus en plus compliqués. Donc du coup, on a pris une solution de facilité. Dieu nous le pardonnera, mais on a pris des écrivains décédés. Donc voilà, on aura cette année... Mouloud Feraoun pour l'Algérie, on aura un auteur marocain, un auteur tunisien, qui sont moins connus, mais justement des gens qui sont, qui sont des grands écrivains dans leur pays.
Qui sont à découvrir ou à retrouver, absolument.
Voilà. Là aussi, toujours pareil, des gens connus, des gens moins connus. Voilà. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que pour parler de l'actualité, ça me permet d'aborder un problème qui me tient à cœur, et je sais que Beurre FM est engagé aussi dans ce combat. C'est la décision scandaleuse du gouvernement français de multiplier par 17 le prix des inscriptions universitaires.
Pour les étrangers.
Les étudiants étrangers, voilà. Alors, une motivation qu'on comprend, c'est-à-dire la France, et c'est à son honneur, voudrait attirer des étudiants chinois, indiens, des étudiants de pays émergents, comme cela, ce que je viens de citer. Mais en fait, on sait très bien que, d'une part, moi je crois que c'est inefficace parce que les Indiens et les Chinois continueront à aller dans les grandes universités américaines. Et puis surtout, mais qu'on veuille les attirer, tant mieux, il faut le faire. Mais c'est pas en multipliant le prix par 17 qu'on va les attirer, ou alors on va attirer uniquement des fils de riches, et c'est pas nécessairement les meilleurs étudiants. Ils sont comme les autres, mais enfin, il faut aussi que
les autres puissent y accéder.
Exactement.
En tout cas.
Et puis surtout, pour nous, ça va sacrifier un nombre considérable d'étudiants maghrébins ou d'Afrique noire, parce que c'est...
Alors,
on ne peut pas à la fois
pour eux,
demander à ce qu'on cultive et qu'on fasse prospérer la francophonie, et en même temps dissuader des amis du Maghreb ou d'Afrique de venir.
On se retrouve dans un instant avec Georges Morin.
Voix au chapitre sur Beurre FM. Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
L'invité est ce dimanche Georges Morin. Nous parlons du Maghreb Orient des livres. C'est ce rendez-vous incontournable de la littérature du Maghreb et du Moyen-Orient. Ça va se passer à l'Hôtel de Ville du 8 au 10 février. L'entrée est libre le 8 février et le vendredi. Et ça commence à 14h. Et le samedi et le dimanche, c'est toute la journée de 11h à 18h30 ou 19h30 le samedi. Georges Morin, vous avez rappelé tout à l'heure que vous aviez des... Voilà, qui vous accompagnait dans les aides financières, les institutions. Vous avez des partenaires médias aussi, c'est important de souligner les partenaires médias. On va rappeler que Beurre FM est parmi l'un des partenaires.
C'est le premier partenaire média que nous avons eu, bien sûr.
Et on en est ravis parce que aussi de notre responsabilité que de faire connaître la littérature.
Bien sûr.
Deux émissions sont chaque semaine consacrées à la littérature sur notre antenne, vous le savez bien. Mais il y a aussi d'autres partenaires, il y a TV5 Monde, il y a d'autres médias.
Oui, donc je
d'autres
peux citer très rapidement. Voilà.
Citez-les, les partenaires médias, c'est important parce qu'ils sont le levier de la communication de votre rendez-vous.
On leur est très très reconnaissant. Alors, il y a donc TV5 Monde qui est aussi l'un des pionniers avec vous. En fait, on a eu dès le départ Beurre FM et TV5 Monde qui étaient avec nous, ça c'était très important à dire. J'en reparlerai dans deux minutes. On a aussi France 24, donc les trois composantes de RFI, France 24 et Radio Monte Carlo en langue arabe, donc qui est dirigée par une amie qui est originaire de Skikda, la patronne de France 24, de France Média Monde, pardon, Marie-Christine Saragosse, voilà, qui est donc très sensibilisée au Maghreb. Il y a aussi Berber TV, qui est notre partenaire. Et puis, des presses de la presse écrite. Donc, en Algérie, on a El Watan et El Khabar. On a donc les deux plus grands quotidiens francophones et arabophones d'Algérie. On a Tel Quel au Maroc. On a Réalité en Tunisie. Voilà, donc c'est des amis. Vraiment, ils font tout ce qu'il faut pour annoncer le Maghreb des livres, pour en parler après, parce que c'est important aussi qu'on ait des articles. Je le redis à tous les amis journalistes qui peuvent nous écouter, c'est important que nous ayons des papiers qui nous confortent un peu vis-à-vis de nos bailleurs de fonds dans les moments où tout ça est en train de on serve beaucoup les boulons sur le plan financier. Voilà, et puis, alors je voulais justement dire de souligner deux cartes blanches, parce que aussi c'était une initiative qu'on a prise, qui est important parce que ça nous permet de soutenir à notre tour des amis qui ont envie de mettre en valeur un certain nombre de choses. Alors, on a deux très belles cartes blanches, entre autres, il y en a sept, je crois, donc je vais parler des deux qui me paraissent les plus emblématiques. La première, c'est justement avec TV5 Monde, puisque TV5 Monde a décidé de rendre hommage à un réalisateur franco-algérien qui s'appelle Rachid Oujdi.
Magnifique réalisateur qui a fait un très beau documentaire sur les Chibani.
Voilà, exactement, de Chibani, sur la jeunesse de France, etc. Qui est mort il y a 51 ans d'un infarctus. Et alors, ce personnage m'a beaucoup touché parce que Il est partenaire aussi. C'est un militant de SOS Méditerranée, l'association qui avait affrété l'Aquarius. Et lui et sa femme, c'est très très émouvant, ont adopté deux enfants de migrants. Voilà. Donc c'est un grand monsieur, paix à son âme lui aussi. Et puis donc ça, la première chose. Et deuxième carte blanche qui me tient aussi beaucoup à cœur, c'est la carte blanche de l'accorder au fils de Dariski Djerouiden, le grand patron d'Aiglazur, qui est surtout connu par GoFast et Aiglazur. Donc, Dariski Djerouiden, avant de mourir d'un cancer il y a 3 ans au Portugal, où il s'était retiré parce qu'il était malade. Donc, voilà, il avait essayé de se mettre un petit peu au soleil avant de passer l'arme à gauche, si on peut dire. Et Areski a eu le temps, grâce justement à l'initiative de ses enfants, notamment de Méziane, qui dirige le groupe aujourd'hui, d'écrire ses mémoires. Et c'est vraiment un livre que j'ai terminé de lire hier soir. C'est extrêmement émouvant et passionnant parce qu'on voit
le parcours de cet homme,
qui sort d'un petit village pauvre de Grande Kabylie et qui devient le patron de la deuxième compagnie aérienne française après Air France. Donc c'est quand même un parcours et quelqu'un que j'aime beaucoup parce que, et j'en parle encore au présent, mais qui est quelqu'un qui a été un de nos mécènes, quelqu'un qui nous a beaucoup aidés là aussi parce qu'il croyait en ce que nous faisions. Voilà, il a été l'un des parrains de notre association et du Maghreb des Livres. Et voilà, je vous tenais à lui rendre hommage aujourd'hui. Et on va lui rendre hommage donc à travers... Donc, et ce sera... deux amis, donc ce sera évidemment donc, son fils Méziane qui dirige aujourd'hui GoFast, Weaving comme on dit aujourd'hui, et Rachid Arab qui est un grand ami aussi, un journaliste que de la France entière connaît bien, qui vont rendre hommage à nouveau à Areski Djerouiden. Voilà.
Parmi les près de 140, un peu plus, auteurs, il y a vous-même aussi, Georges Morin, on ne peut pas y échapper, hein, ouais. À en parler en tout cas. Ouais. Vous avez publié « L'Algérie au cœur des passions » aux éditions Cavalier Bleu. Ce n'est pas votre premier livre parce que vous aviez fait dans la collection Cavalier Bleu autour des idées reçues.
Absolument, voilà.
Le petit livre sur l'Algérie. Je dis petit, mais dense au sens du contenu. Que nous raconte ce que vous publiez là, Georges Morin, « L'Algérie au cœur des passions »
C'est un, si je puis dire, un enfant de la, de, du petit, des petits, il y a eu 3 éditions du... du petit. C'était un petit livre de 128 pages, hein, qui était maintenant, alors que celui-ci en fait 250. C'est une idée très originale de l'éditeur, qui est de demander à un universitaire ou à un journaliste de prendre un sujet sur lequel courent des idées un peu contradictoires et un peu parfois biscornues, et de les décortiquer pour discerner le vrai du faux. Hein. C'est quelque chose qui est devenu quelque chose de très, très utile aujourd'hui avec les fausses nouvelles, les infox, comme on dit, qui circulent à travers le monde et dans tous les réseaux sociaux. Donc c'est de prendre... Donc j'ai pris une vingtaine d'idées reçues sur l'Algérie. Et évidemment, ça cherche à atteindre le public français, hein, c'est la cible, pour dire aux Français, attention, l'Algérie, on dit un peu n'importe quoi dessus. Donc j'ai pris toute une série de questions. En gros, il y en a la moitié qui sont... historiques, l'autre moitié qui sont d'actualité, politique, économique, sociale, etc. Et on décortique ces idées. Alors, je vous dis, je prends la première au hasard, hein, qui est de dire, bon, l'Algérie n'a jamais été indépendante. Bon, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de... Comme la France, l'Algérie a été souvent conquise, et la France en a eu autant. Hein. Et c'est, je pense, qu'il fait aussi la richesse de ces deux pays, parce qu'ils ont subi beaucoup d'influence. Et je peux prouver, comme ça, mais j'ai été content de le découvrir, parce que je le sentais bien, mais que l'Algérie, elle, en gros, 40% de son existence, depuis les Carthaginois, si je puis dire, a été un pays indépendant. Mais voilà, aussi avec, comme je l'ai dit, aussi beaucoup d'influences extérieures, arabes, byzantines, romaines, françaises, turques, etc. Voilà.
L'Algérie au cœur des passions. Et c'est avec passion que vous nous en parlez. C'est le titre de votre livre, Georges Morin, qui vient de paraître aux éditions Cavalier Bleu. Donc vous serez à un moment donné incontournable aussi dans ce Maghreb Orient des livres, assis à une table de dédicace.
Voilà, quel honneur.
Pour rencontrer votre public. On aurait longtemps encore à parler avec vous, Georges Morin, parce que vous parlez avec passion vraiment de ce rendez-vous qui est le modèle, le Maghreb Orient des livres. Je rappelle, le rendez-vous, c'est à l'Hôtel de Ville de Paris du 8 au 10 février. Le 8 étant le vendredi et s'ouvre le Maghreb Orient des livres commence à 14h. Et le 9 et le 10 sont le samedi et le dimanche. Et c'est toute la journée à partir de 11h. On n'a que quelques minutes encore à partager. Je ne peux pas m'empêcher évidemment de rappeler que Beurre FM est en direct le samedi après-midi de 14h à 16h avec un défilé, si je puis le dire ainsi, d'auteurs, d'éditeurs, d'illustrateurs, parce qu'il y a aussi un rendez-vous avec la jeunesse que l'on prendra en direct dans les salons de l'Hôtel de Ville où nous allons poser nos studios pendant ce week-end. Et nous allons aussi remettre
le prix,
prix Beurre FM Méditerranée en partenariat avec TV5 Monde, puisque on y reviendra tout au long de la semaine en vous présentant ces 6 titres qui ont été dans une sélection de livres lus par un certain nombre de journalistes, de membres du jury qui sont Majid Cherfi, Aklit Tadjer, vous-même Georges Morin pour Coup de Soleil, Mustapha Arzoun de la revue Homme Immigration, qui est la revue du Musée de l'histoire de l'immigration, et d'autres membres du jury qui ont délibéré dans un grand restaurant parisien, comme le font tous les grands prix, pour décerner le choix du prix Beurre FM Méditerranée de cette édition 2019. Mais là, je tairai le titre et l'auteur, puisqu'il sera donné en direct au Maghreb Orient des livres. Voilà pour notre participation et notre partenariat, évidemment, très fort, vous l'avez souligné, Georges Morin, dans ce Maghreb Orient des livres. Et je voudrais terminer peut-être en vous donnant encore une petite, deux, trois petites minutes pour nous rappeler que il y aura donc des éditeurs et des auteurs du Maghreb qui seront là.
Oui, bien sûr. Alors, les éditeurs, vous savez que c'est un choix que nous avait recommandé à la fois Rachid Mimouni et puis quelqu'un auquel je dois aussi rendre hommage, qui était au départ avec nous pour la construction de ce projet. C'est Marie-Louise Bellarbi, hein, la grande libraire de Casablanca, voilà, qui a été aussi un fervent partisan et qui nous a beaucoup aidé, notamment auprès du ministère de la Culture marocaine, pour nous nous adouber un peu auprès de tous les gens qui s'occupent de culture au Maroc. Marie-Louise Bellarbi nous disait aussi qu'il fallait... elle était exactement sur... Enfin, c'est les discussions avec Rachid et Marie-Louise qui nous ont permis de monter cette belle manifestation. Voilà, donc c'est un... Je crois qu'il faut rendre... En pensant à Marie-Louise, je voulais rendre hommage aux libraires qui sont aussi avec nous. On a eu 3 ou 4 libraires en 25 ans. Le dernier donc est quelqu'un qui est un passionné aussi de ce que nous faisons, qui est Michel Sivenard de la librairie L'Arbre à Lettres Bastille à Paris. Et nous avons donc deux autres librairies, une librairie internationale qu'il a prise en main maintenant, voilà, où se retrouvent notamment
les éditeurs du
Maghreb, et puis une librairie jeunesse avec la librairie d'Attrape-Cœur. Alors, pour revenir aux éditeurs du Maghreb, donc, ce que nous disaient Marie-Louise et Rachid, c'est de nous différencier de beaucoup d'autres salons qui sont des stands d'éditeurs ou dans une espèce de boîte, les auteurs défilent chez leur éditeur. Ils nous avaient recommandé, on a tenu bon, de ne pas faire des stands d'éditeurs, mais de travailler directement avec un libraire et les auteurs. Mais bien entendu, les éditeurs sont dans le coup, on les connaît tous. Mais voilà, donc beaucoup d'entre eux viennent tout à fait normalement au Maghreb des livres, ils viennent soutenir leurs auteurs, et bien entendu. Mais si vous voulez, dès le départ, le Maghreb des livres c'était une option que nous avait conseillé encore une fois Rachid Mouni, Marie-Louise Bellarbi, de ne pas mettre en vedette les éditeurs, de mettre vraiment en première ligne les auteurs, parce que eux-mêmes, et notamment Rachid Mouni, on a souvent le sentiment qu'on disparaît derrière l'éditeur. L'éditeur était le roi au salon et les auteurs disparaissent un peu. Ils sont que des numéros dans une liste chez un éditeur. Voilà, donc c'était un pari qu'on a pris et auquel on se tient volontiers. Mais bien entendu, beaucoup d'éditeurs, les 9/10 des éditeurs du Maghreb sont là, ils sont les bienvenus et c'est grâce à eux quand même que ces bouquins existent.
Hein. Maghreb Orient des livres, Hôtel de Ville de Paris, c'est du 8 au 10 février à Paris. L'entrée est libre le 8 et le vendredi et ça commence à 14h le vendredi après-midi. On l'a rappelé, des dédicaces, des cafés littéraires, des entretiens, des tables rondes, des rencontres. Vraiment, un rendez-vous incontournable. Peut-être nous donner le programme, Georges Morin, il est sur le site de l'association Coup de Soleil.
Absolument.
Pour les auditeurs, les auditrices.
Absolument, on le retrouve sur le site des deux associations, c'est-à-dire sur
le site de Coup de Soleil et
le site de l'IREMO, voilà, donc il suffit d'y aller pour le retrouver. Voilà, donc il est riche, il est très très séduisant. Il faut vraiment que beaucoup de monde vienne parce que ça sera un encouragement pour nous dans une période où c'est un peu difficile. Voilà, donc on espère avoir du monde. En fait, je dis quelque chose qui est paradoxal parce qu'en même temps, on n'a pas envie d'avoir 10 000 visiteurs. On a en gros 7 000 visiteurs chaque année et parce qu'on ne pourrait pas en accueillir autant. Donc voilà,
très confortable, il y aurait trop de monde.
Non, ça serait une boîte de sardines, donc ce n'est pas très propice à la réflexion et à la lecture. Mais en même temps... Plus il y aura de monde qui passera, parce que le drame, c'est que les...
Ils viennent le samedi, ils viennent le dimanche.
Non, mais ils viennent et puis ils restent, ils bougent pas. Or, il y a des compteurs à l'entrée et des compteurs à la sortie. Dès qu'il y a plus de 1 000 personnes, la sécurité arrête les entrées. Donc, les policiers à l'hôtel de ville se plaignent, disant, ils sont bien gentils, vos amis, mais ils restent.
Il y a de quoi rester, puisqu'il y a aussi une cafétéria. Et puis, on n'a pas parlé des expositions, c'est vraiment le mot de la fin, puisque... Il y aura une courte exposition dans ce Maghreb Orient des livres d'Ali Yessoum qui est, attention,
oui,
travail d'arabe
bien sûr,
avec
bien sûr.
Des reproductions de
oh oui. extraits
de
son livre. On a des calligraphes, livre, voilà, peintres, calligraphes, des photographes. C'est aussi, voilà, c'est merci de l'avoir souligné, c'est aussi un lieu de culture en général, pas seulement le livre.
Voilà. Merci Georges Morin de votre passion.
Merci à vous,
pour ce rendez-vous Maghreb Orient des livres, Hôtel de Ville de Paris, le vendredi 8 et le samedi et dimanche, 9 et 10 février. Le vendredi est à partir de 14h et vous aurez le samedi de 14h à 17h, Beurre FM en direct dans les salons de l'Hôtel de Ville de Paris. Au revoir à tous, au revoir à toutes. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, passez une bonne semaine.
Voix au chapitre sur Beurre FM.